Take my house, baby stones, I don't care. Take my home, take my clothes, my fancy shoes, I don't need it.
C'était Jan Verstraeten, Goodbye World. Tout de suite, la mort, tout un art.
Bonjour, bienvenue dans la mort, tout un art. Je suis Lucille Milliard, la réalisatrice. Tous les mois, je m'entretiens avec des artistes qui traitent du sujet de la mort et avec des professionnels du funéraire qui font de leur métier tout un art. J'ai choisi, avec ce projet, de mettre en lumière les initiatives remarquables, locales et humanistes dans le monde du funéraire. C'est parti. La mort, tout un art. L'art de créer des objets funéraires en céramique avec Lila Rosé et Charlotte Le Floch. Alors Lila et Charlotte, bonjour.
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 Vous êtes toutes les deux céramistes et j'aimerais que vous nous racontiez vos parcours qui vous ont amené à la céramique, car ils sont différents. Puis, ce qui vous a amené à la céramique funéraire.
Charlotte Le Floch.
Ce qui m'a amené à la céramique, finalement, c'est un peu un à côté. C'est-à-dire que j'avais pas... Par exemple, ça n'a pas été dans mes études, ça n'a pas été dans un parcours que j'ai vraiment anticipé. Ça a été plutôt... je travaillais déjà et c'était une amie qui m'a invitée à faire des cours du soir dans une école d'art et je l'ai accompagnée. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert tout cet univers-là. Et à la sortie de ce cours d'essai, je me suis lancée et puis depuis, j'ai pas lâché. Et c'est assez marrant parce que le rapport au funéraire, c'est arrivé finalement pendant ces premiers cours du soir. C'est que assez vite, je me suis imaginée fabriquer quelque chose pour mettre sur la tombe de mes grands-parents. Donc les deux sont arrivés un peu en même temps, même si je me suis enfin, je m'étais pas du tout projetée dans une vraie démarche, quoi. C'était plutôt quelque chose d'assez instinctif sur ce truc-là.
Lila Rosé.
Pour ma part, c'était un peu différent. C'était vraiment mon parcours d'études, la céramique. J'ai commencé la poterie tout de suite après le baccalauréat d'art appliqué. Et j'ai fait un cursus qui a duré sur 8 ans, en fait, à quand même pas mal faire de la poterie. Et c'est un peu de la même manière que Charlotte, c'est le funéraire, il est arrivé conjointement avec les études de poterie. Enfin, en tout cas, quand j'ai commencé à en faire, c'était pas si clair de aussi pourquoi est-ce que j'avais envie de faire de la céramique. Enfin, je crois qu'il y avait pas le sens forcément qui est venu tout de suite. Et il se trouve qu'il y a eu la mort de ma grand-mère, en fait, pendant mes études. Et que ça, il y a quelque chose qui s'est chamboulé à ce moment-là. Où, en fait, c'est ma grand-mère maternelle. Et de ce côté-là, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans le funéraire, dans ma famille. Notamment mon grand-père qui était croque-mort et qui nous avait un peu toujours raconté sa vie professionnelle, quoi. Donc ça a toujours fait partie de notre famille. Et je crois qu'il y a eu une sorte de déclencheur à la mort de ma grand-mère. Il y a eu assez étonnamment, j'étais la première surprise, mais comme une sorte de vocation qui est apparue. Enfin, je faisais en même temps un travail de recherche beaucoup archéologique, on va dire, au niveau des histoires familiales, pile à ce moment-là. Et du coup, il y a un peu tout ça qui a travaillé en même temps et qui m'a fait me dire que moi aussi, j'avais envie de perpétuer un peu cette histoire familiale du funéraire, mais avec ce que j'avais dans les mains, c'est-à-dire de la terre, quoi. Et du coup, ça a fait beaucoup de sens d'un coup. Et je me suis dit que c'était aussi pour ça que j'avais envie de faire de la céramique, peut-être pour perpétuer, mais aussi probablement pour renouveler et pour apporter tout ce que je pouvais avoir de contemporain, de propre à mon époque, quoi, et à mon âge aussi, de faire de la céramique funéraire.
Peut-être déjà dire en quelques mots, qu'est-ce que la céramique ? Qu'est-ce que la céramique funéraire et quels sont les objets voilà, que l'on voit le plus fréquemment dans le milieu du funéraire ?
Moi, ce que je peux... identifié, c'était aussi dans mes souvenirs de qu'est-ce que j'ai pu voir en tant que même enfant ou autre dans les cimetières et de ce qui me revenait avant de faire de la céramique. C'était beaucoup ces couronnes de fleurs, de roses avec des couleurs un peu passées, des fois un peu cassées. Voilà, l'idée vraiment de cette couronne bien composée de composition florale, quoi. J'avais vraiment ça en tête. Et en faisant quelques recherches, sur l'histoire un peu de la céramique funéraire. Moi, j'ai surtout vu, en tout cas dans notre culture aussi, dans les cimetières que j'ai pu fréquenter, c'est surtout cette image de la couronne de fleurs qui était un peu là pour passer de la fleur, un peu pour immortaliser les couronnes de fleurs fraîches, quoi, et qui sont passées par d'autres artisanats entre-temps. C'est-à-dire que ça n'a pas... Pour passer de la couronne de fleurs fraîches, ensuite... historiquement, il y a eu aussi un passage par la couronne de fleurs séchées et ensuite par des couronnes de perles, de fleurs faites en perles de verre, qui donc étaient fabriquées comme ça, surtout par des femmes d'ailleurs, et qui venaient orner les tombes. Et ensuite, il y a eu à une expo universelle une manufacture de porcelaine qui en a fait une en céramique, quoi. Et puis ça a lancé aussi un peu, je pense, d'autres manufactures et puis qui ont lancé toutes ces couronnes qu'on peut voir dans les cimetières, quoi. Surtout sur les tombes les plus anciennes.
Est-ce que ça se fait encore ? Ça se vend encore un peu de manière traditionnelle ? Là, vous arrivez aussi, comme vous le disiez, Lila, avec un regard contemporain. Vous voulez moderniser cet art de la céramique aussi, et même du funéraire, mais au-delà du funéraire. Mais est-ce que... C'est encore, je ne sais pas, la mode de la céramique dans les cimetières où on est revenu à des fleurs plutôt fraîches, à des fleurs...
Je crois que je ne saurais pas du tout identifier quelle serait... Enfin, parce que ça mériterait vraiment de faire une étude, de voir tout ça. Mais juste, j'ai pu aller interroger des entreprises qui vendaient justement des objets à déposer sur les tombes. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés étaient incapables de me donner leur nom de fournisseur. sur les couronnes de roses, par exemple. Parce que justement, je voulais essayer de trouver un peu qui en fabriquait encore, à la main ou autre. Et j'ai pas trouvé l'information. Donc on peut voir des documentaires où on voit encore qu'il y a des manufactures où c'est fabriqué encore à la main, émaillé à la main. Et j'ai pas en tout cas trouvé l'adresse. Je sais pas si toi, Lila, t'as...
Non, moi j'ai pas non plus rencontré sur mon chemin les endroits où ça se fait encore.
Et est-ce que vous pouvez la décrire qu'est-ce qu'une céramique Quelles sont les différentes étapes pour construire, créer une céramique?
La céramique, c'est d'abord de l'argile, donc la terre à l'état plutôt naturel, comme on peut la trouver dans le jardin ou comme on peut voir en forêt. Enfin, en gros, la terre, quoi, ce qui constitue le sol. Et ensuite, elle est façonnée, quoi. Enfin, il y a... Si on veut utiliser une terre naturelle, il y a un petit processus à faire pour la nettoyer, la préparer. Ensuite, c'est l'idée de venir la modeler, de la mettre en forme. Et puis, pour qu'elle devienne une céramique, en fait, il faut qu'elle cuise. Et il faut qu'elle cuise deux fois. Donc, une première fois en basse température, on va dire, donc autour de 950 degrés. Et on appelle ça l'étape du biscuit ou du dégourdi. Et ensuite, on la cuit une deuxième fois après avoir appliqué un vernis dessus, qu'on appelle l'émail. Et là, on cuit en haute température, entre 1050 degrés et 1280, parfois 1300 degrés pour la porcelaine. Donc ça fait une céramique. Et c'est une terre cuite, émaillée ou non d'ailleurs, ça reste une céramique.
Et donc, il tient dans le temps, parce que là, vous le disiez, il y a des anciennes céramiques qui, sur des tombes plus anciennes, ce sont aussi les premiers objets funéraires que l'on retrouve dans les tombes.
Ouais, absolument. En fait, c'est aussi ça que, avec Charlotte, on active dans les ateliers d'ailleurs. C'est cette idée que la terre, elle a aussi les propriétés à la fois éphémères. En fait, si elle n'est pas cuite, elle peut se dissoudre, elle peut disparaître aussi, se dégrader hyper facilement. Et une fois qu'elle est cuite, elle devient assez éternelle finalement, parce que c'est vrai que. Tu disais qu'on en retrouve dans les tombes, et c'est tout à fait vrai. C'est des objets qui ont traversé le temps. Et notamment, c'est souvent les objets qu'on a le plus retrouvés. C'est des objets funéraires. Dans les fouilles archéologiques, c'est très fréquent de retrouver des objets qui sont liés au rite funéraire.
Alors, il y a aussi donc, des objets du rite funéraire. Il y a aussi beaucoup d'objets du quotidien. Quel est justement le lien entre objets, la céramique, on en retrouve dans la vaisselle notamment, on en retrouvait dans les tombes. Est-ce qu'il y a des catégories de céramique du quotidien, d'objets d'art et céramique funéraire, où à un moment donné, tout se croise aussi?
Non, j'ai l'impression que c'est ça aussi qu'on questionnait. Enfin, par exemple, si je reprends la première idée que j'ai eue, par exemple, en voulant moi-même faire un objet pour mettre sur les tombes de mes proches, ça a toujours été des objets... par exemple, c'était un petit vase, un des premiers que j'avais modelé. Et c'était pas forcément un rapport très représentatif sur le funéraire. Donc c'était pas issu sur, justement, ces images de ces couronnes ou autres, c'était autre chose. Et du coup, je pense que c'est un peu ces interstices-là qu'on veut proposer dans les ateliers. C'est de questionner quelle est un peu la valeur de l'objet funéraire pour soi-même. Qu'est-ce que chaque personne a envie de mettre dans cet objet comme histoire? Et donc, du coup, quel est son usage? Et ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être à la fois un bougeoir, ça peut être une tasse, ça peut être un objet qu'on utilise tous les jours, mais ça peut être aussi un objet qu'on va déposer en extérieur. Et donc oui, ça recroise un peu plein de choses, comme tu disais, à la fois de vaisselle du quotidien et à la fois d'objets d'art, parce que là, parmi les personnes qui ont pu participer aux ateliers, il y a énormément de propositions. Enfin,
je pense que c'est hyper, c'est une bonne question de se poser ce truc de frontière entre l'objet d'art, l'objet funéraire, l'objet du quotidien. J'ai l'impression que nous, ça nous traverse beaucoup comme question dans les ateliers, et que justement, on a envie de laisser la place à tout ça pour exister. Et en fait, c'est assez ténu comme lien. Enfin, j'ai l'impression que à plein d'endroits dans les tombes, on retrouve des on retrouve des vases de maison qui sont devenus des urnes funéraires, en fait. Donc les usages sont très transversaux, finalement. Et il y a quelque chose qui... Peut-être qui traverse la vie et la mort aussi par la céramique, par la terre, parce qu'on l'utilise dans la vie. Et que du coup, elle en fait d'autant plus un objet de la mort intime et chargé de sens, j'ai l'impression.
Alors, vous parliez d'atelier, vous étiez là donc en résidence 3 mois à l'Hôtel Pasteur. Pourquoi cette résidence? Qu'est-ce que vous recherchiez dans ce projet-là, dans ce temps-là?
Cette demande de résidence, elle s'est faite aussi suite à notre rencontre avec Lila, à un moment où on s'est toutes les deux réinstallées à Rennes, et on s'est rencontrées pour échanger d'abord de céramique et de nos pratiques, et même de pratiquement qu'est-ce que c'est que d'avoir un atelier, un four, enfin bref, vraiment de la logistique céramique. Et assez vite, on s'est rendu compte qu'on avait cette même aspiration pour le funéraire, et aussi un peu les mêmes endroits où on avait envie de le tester ou de le proposer. Et cette idée de proposer des ateliers pour accompagner à des personnes qui souhaiteraient de fabriquer leurs propres objets funéraires, c'est venu assez vite. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'avait pas on voyait pas forcément la même chose l'une et l'autre dedans, mais c'était très complémentaire, donc ça nous a un peu motivé à se dire ok, faut qu'on teste en fait cette démarche là. Et Pasteur nous a permis d'avoir un lieu pour le faire et une quotidienneté aussi pour échanger là-dessus et affiner un peu notre démarche.
Ouais, complètement. Pasteur, c'était aussi avoir un lieu commun, effectivement, et de pouvoir le proposer à des publics, en fait, ouvrir le lieu et accueillir des gens. C'était un peu un espace et un espace-temps pour nous, d'expérimenter, je crois, de mettre sur pied notre projet d'atelier. Donc, l'idée de nos ateliers, c'était de effectivement, comme tu disais, Charlotte, d'avoir quelque chose d'assez complémentaire, parce que on a souhaité mettre en route des ateliers à la fois collectifs, donc un endroit avec plusieurs personnes qui font chacun et chacune leur objet funéraire. Et nous, on fabrique le cadre, en fait, de cette rencontre. Du coup, on propose l'espace, le temps et nos connaissances techniques, en fait, de céramiste, pour que les gens puissent réaliser leur objet. Et je crois que c'était ça qui a été mis en place, en fait, pendant notre temps de résidence. C'était plutôt le cadre. C'était réfléchir comment on fait cet accueil, comment on fait cet accompagnement. Et en parallèle des ateliers collectifs, on avait aussi envie de proposer des accompagnements plus personnels, entre guillemets. Du coup, des temps un peu privilégiés pour des gens qui auraient envie de nous solliciter, des familles, des groupes, des individus qui peut-être ont envie de réaliser un objet sur un temps un peu plus long, avec un accompagnement un peu plus particulier, peut-être pour un projet... peut-être de groupe, peut-être de famille, mais en fait on voyait ça quand même comme deux temps un peu différents. Et on a pour l'instant réalisé des ateliers collectifs. On va bientôt faire les premiers accompagnements de famille et les accompagnements individuels. Donc c'était un temps pour expérimenter ça.
Et qu'est-ce que viennent chercher justement les familles là qui vous contactent pour ces ateliers plus individuels?
J'ai l'impression qu'ils viennent chercher un temps aussi familial, enfin là pour le coup c'est une famille, un temps pour justement pouvoir vraiment accorder du temps à cette perte et de pouvoir en faire quelque chose de beau tous ensemble, quoi. Enfin moi j'ai un peu ressenti ça, mais je sais pas ce que toi t'en penses.
Ouais, carrément j'ai l'impression qu'il y avait ça. Dans leurs demandes, et que souvent, enfin en tout cas dans les demandes qu'on nous a faites, c'était ça. C'est peut-être l'idée de transformer quelque chose aussi à plusieurs, et que c'est pas, même si les accompagnements individuels on les propose aussi pour des individus seuls, j'ai l'impression que ça parle beaucoup aux familles, aux groupes, effectivement, aussi parce qu'il y a quelque chose du temps de faire ensemble, quoi, et de transformer ensemble peut-être cette perte. Et de décharger quelque chose aussi, peut-être, à plusieurs.
C'est quelque chose que vous aviez déjà réalisé, Lila, avec des ados?
Oui.
Est-ce que vous voulez nous raconter cette histoire de jeunes qui voulaient rendre hommage et c'est passé par la céramique?
C'était une belle histoire. C'est un groupe d'adolescents et d'adolescentes qui sont venus dans mon atelier pour faire un objet pour une amie à elle et à eux qui était décédée il y a quelques années. Donc quand ils étaient plutôt très jeunes. Et je leur ai proposé de réaliser des couronnes de fleurs, ou pas forcément de fleurs d'ailleurs, mais en fait c'était plutôt orner une couronne avec ce qui vous fait du bien. Et du coup chacun et chacune a pu rendre son hommage. C'était assez chouette parce que c'était, pour moi, c'était le tout premier d'une série d'ateliers, et que ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'était des ados et que du coup c'était juste vivant dans leur vivant à elles et à eux, quoi. C'était pas du tout triste, ils se sont mis à faire des couronnes et puis pas du tout à parler de leur ami, mais plutôt à parler de leur soirée de la veille et de ce qu'ils allaient faire après l'atelier. Et du coup ça a incarné quelque chose que j'avais toujours rêvé, enfin, ou peut-être j'ai toujours pensé à ça pour les ateliers. Je me suis toujours dit, en fait, c'est des espaces où j'espère qu'il y aura de la vie. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé en faisant. On est peut-être connecté au pourquoi on est là assez fortement, mais du coup pas forcément dans l'émotion de ce que ça nous fait, et plutôt dans la transformation. Enfin, moi, je vois ça comme ça dans les ateliers, en tout cas, qu'il y a un acte de transformation, de peut-être d'une douleur, d'une peine, d'un manque. Je trouve que c'est ça qui se passe un peu.
Mais comment on amène justement un atelier de céramique funéraire là? Donc, par exemple, c'était des jeunes ados qui avaient perdu quelqu'un, enfin, qui avaient vécu le décès de quelqu'un quand ils étaient encore plus jeunes. Est-ce qu'à un moment donné, comment vous arrivez en disant on va faire un atelier de céramique funéraire? Comment on amène cette pratique-là pour proposer ces espaces-là à des personnes qui peuvent vraiment se retrouver sur ces lieux-là avec cette technique-là?
J'ai l'impression que c'est tout l'objet de notre recherche en ce moment et de notre temps de résidence, c'est de comment justement créer ce cadre-là et comment le travailler dans plein de détails, quoi. Donc que ce soit par présenter notre démarche, que ce soit présenter ce que nous on fait, et aussi du coup dire pourquoi, en fait, intimement, nous, ça nous a parlé et à quel moment ça nous a importé, nous-mêmes individuellement, de fabriquer un objet pour des objets funéraires. Et j'ai l'impression, en tout cas, que la semaine dernière, quand on a fait notre dernier atelier, c'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment une connexion. C'est quand on a partagé des anecdotes sur justement quels objets nous on avait pu fabriquer et quelle émotion et quel symbole on leur portait, quoi, quelles étaient leur importance à nos yeux. Donc c'est des premières pistes et j'espère qu'on en trouvera plein d'autres pour comment bien amener ça. Et donc là, on l'a amené à la fois par l'intime et puis aussi par simplement de historiquement quelques pistes. Qu'est-ce que c'est que la céramique funéraire? C'est à la fois des offrandes, c'est à la fois des objets de rituel, c'est à la fois des objets représentatifs à déposer pour le monde des vivants, ou au contraire des petites choses, même des objets à garder sur soi, des petits talismans, des choses à... Enfin voilà, de parler un peu de tout ça.
Oui, parce que du coup, les objets là de céramique funéraire, il y a les couronnes florales que l'on dépose sur les tombes, mais ce n'est pas que ça. Est-ce que justement, vous voulez raconter une anecdote, un objet que vous avez fait fabriquer pour vous? Qu'est-ce que vous en avez fait? Et aussi, à partir de quel moment on s'arrête quand on façonne la terre et qu'on doit s'arrêter et qu'on va le cuire et que là, c'est fini?
Je sais pas. Enfin, moi personnellement, je me rends compte que pour les objets funéraires que j'ai voulu fabriquer juste pour moi ou mes proches, ça dépendait complètement aussi du lien que j'avais eu, et notamment donc pour des personnes que j'ai vraiment connues et avec qui j'étais dans un quotidien, c'était des objets du coup plus domestiques, et pour par exemple des personnes que j'avais pas connues, mais donc des personnes disparues de ma famille que j'ai jamais connues. vu que c'était beaucoup des histoires et un peu des petites légendes dans ma tête, c'était comme des légendes, tout ce qui est attrait à leur histoire, et du coup j'imaginais des objets hyper sculpturaux. Enfin, c'était j'avais imaginé à un moment donné pour la tombe de mes grands-parents que j'ai très peu connus, j'avais envie de fabriquer une énorme sirène. Enfin, c'était des, et quelque chose de qui raconte plutôt une sorte de légende ou de mythologie d'un lien que j'ai très peu connu mais qu'on m'a énormément raconté. Alors que pour des grands-parents que j'ai pu connaître, c'était plutôt des objets du quotidien et que c'était pas tant représentatif d'une histoire.
Qu'est-ce que vous en faites de ces... Vous en avez fait de ces objets, par exemple. La sirène, j'imagine que vous l'avez déposée.
La sirène, elle est toujours dans ma tête.
Ah oui.
La sirène, elle est toujours en projet. Parce que c'est ça, c'est un peu lié à tout le symbole qu'il y a dedans. Et je me le garde. Ça sortira un jour.
Et les objets du quotidien qui vous ont permis de vous reconnecter justement à des proches défunts, est-ce que vous les avez déposés dans la tombe ou vous avez préféré les garder chez vous? Est-ce que vous vous en servez au quotidien? Parce qu'on peut se servir des objets céramiques en fait aussi.
Alors moi pour le coup c'est des objets que j'ai toujours déposés en extérieur sur les tombes, mais il y a plein d'autres possibilités.
Moi j'ai assisté à votre premier atelier à Pasteur, à l'hôtel Pasteur à Rennes, et j'ai profité d'être à la fois dans la pratique, mais j'avais aussi amené mon enregistreur et donc j'ai pu enregistrer deux personnes à la fin, et donc je vais vous faire écouter un des retours.
Une des créatrices est une fille d'amis. Et moi, le côté travail sur la mort et sur l'aspect un peu décoratif des tombes et tout ça, c'est pas quelque chose forcément vers lequel je serais allée en premier plan. Et en fait, ça me plaît bien. Il s'avère que d'un point de vue personnel, j'ai eu quelques décès récemment dans ma famille et j'avais envie de mettre une touche qui sorte un peu de l'ordinaire et qui soit un peu plus de moi finalement, et je trouve le concept vachement sympa, donc c'est plaisant déjà. Il y a un groupe, c'est chouette, on rit ensemble, on fabrique ensemble, on imagine, et puis moi j'ai très peu d'imagination, mais le fait de s'y mettre, et ben les idées viennent petit à petit et on a envie de créer un truc.
Vous aviez une idée à la base de ce que vous vouliez faire, ou c'est aussi avec le groupe, avec ce que Lila et Charlotte nous ont présenté, que sont venues les idées?
Alors moi, j'avais une idée à la base de faire une boîte. J'avais envie de créer un objet dans lequel je puisse laisser, ou mes enfants, ou quelqu'un puisse laisser quelque chose sur place. Alors après, la forme de la boîte, j'avais pas forcément d'idée, mais du coup pareil, en voyant ce que font les autres, des creux, des ronds, des boîtes longues, courtes, voilà, ça s'est fait un peu comme ça.
Et là, aujourd'hui, à quoi ressemble votre objet?
Alors il ressemble à un oiseau avec une tête. Et alors c'est un oiseau un peu il est très minimaliste, donc il est tout droit, il est plutôt longiligne, et la tête se décolle du reste, et donc en soulevant la tête il y a le corps qui forme un tube et dans lequel on peut glisser par exemple un dessin ou un petit mot, et on referme la tête et ça fait un oiseau.
Et qu'est-ce que ça vous a fait de travailler la terre? Est-ce que vous étiez justement connectée à vos enfants, à vos défunts, ou non, vous étiez présente dans le groupe?
Un peu les deux, je crois. Parce que dans le groupe, oui, sur le moment présent, voilà, on est bien tous ensemble. Mais non, j'avais quand même l'idée derrière. Une pensée quand même, pour la personne disparue, et puis envie de pas trop je savais pas trop vers quoi j'allais, mais j'avais envie de finir quelque chose bien, quoi, enfin d'aller jusqu'au bout du projet, parce que j'aimerais vraiment bien finir cette pièce et la mettre sur la tombe. Voilà,
merci beaucoup.
Merci à vous.
On vient d'écouter un premier retour donc de ce premier atelier que vous avez proposé. Qu'est-ce que ça vous fait déjà d'entendre ce retour?
Ça fait plutôt du bien. Ça fait plutôt du bien de voir que que ce qu'on veut proposer parle aussi aux personnes qui veulent participer à l'atelier et que ça correspond à un besoin qu'en fait qu'elles avaient. Et ça fait du bien aussi de voir aussi que par les mots par exemple qu'elle a pu utiliser, ça correspond à des valeurs qu'on voulait transmettre aussi dans ces ateliers, enfin qu'on voulait proposer dans tous les cas. Et notamment l'idée de pouvoir offrir à des personnes de se réapproprier un peu ces objets commémoratifs et de pouvoir partir de leurs propres histoires pour fabriquer quelque chose et qui ont du sens pour elles-mêmes et des fois que pour elles-mêmes, un peu comme... Enfin voilà, je pense que chaque personne aussi qui ont fabriqué des objets ont leur petite histoire qui est parfois cachée ou parfois écrite. Et je pense que c'est un truc qui est dans la Terre, qui a un gros potentiel narratif et que nous, on donne finalement les outils pour que chaque personne puisse raconter un peu son histoire à travers ça. Enfin, en tout cas, je pense que comme en ayant commencé à travailler la Terre, j'avais l'impression qu'on avait vraiment un moyen de pouvoir proposer d'autres formes d'objets, que ce soit pour de la vaisselle du quotidien ou un endroit, en tout cas, on pouvait vraiment se réapproprier quelque chose, quoi. Et pour la question du funéraire, c'est aussi un moyen de pouvoir sortir aussi de tous ces espaces communs qu'on peut voir de la couronne de fleurs, dans notre imaginaire, ce que c'est qu'un objet funéraire. Par les ateliers, c'est ce qu'on voulait aussi proposer, de un peu changer de posture, de pas être forcément dans le fait de choisir dans un catalogue, d'essayer de trouver le meilleur compromis entre ce qu'on a en tête et ce qui pourrait aller sur la tombe d'un de nos proches, et de pouvoir justement proposer de re-questionner tout ça. Donc à la fois, quelle est l'histoire qu'on va représenter, enfin quelle est clairement la forme de cet objet, quel va être son décor, mais aussi quel va être son usage. Donc est-ce que vraiment ça va être un objet finalement à mettre sur une tombe, ou est-ce que ça va être un objet à mettre chez soi ou à porter. Enfin l'idée de se réapproprier, ça veut dire se réapproprier dans tous les sens, quoi. À la fois la représentation, l'image et l'usage.
Oui, moi ce que j'ai apprécié par exemple, c'est que je savais qu'on était dans un contexte d'un atelier de céramique funéraire, que vous nous invitiez donc par message à penser déjà notre objet sans obligation, c'était vraiment une invitation. Et déjà là, par exemple, moi c'est venu me chercher, j'aurais pas pensé vouloir faire un objet pour tel événement. Donc il y a déjà une histoire qui se construit avant même l'atelier. Et puis cette ouverture sur l'objet. Au tout début, je me suis dit peut-être que l'on allait faire des couronnes de fleurs, parce que quand on dit céramique funéraire, c'est la première image. Et en fait, non, on était complètement libre. Et moi, le dessin, c'est pas quelque chose que je sais, je sais pratiquer. Mais j'avais toute confiance pour aller au-delà. Et quand on est rentré dans l'espace de l'atelier, il y avait aussi beaucoup de ressources, documentaires et puis des exemples aussi de ce qu'on pouvait faire, parce que l'atelier était sur 2 heures, donc c'était aussi un temps limité. Et moi, ça m'a aidé aussi d'avoir des images, et puis vous nous avez vraiment accompagné dans la technique, dans la technicité de comment on allait faire. On avait de l'idée vraiment mentale à la conception, quoi. Il y a 3 choses fortes pendant cet atelier. La première, c'était la peur de charger mon objet, en me disant, bon, comme là, c'est en lien avec un événement important, impactant dans ma vie, j'avais peur de le charger et de qu'est-ce que j'allais en faire, à qui j'allais le transmettre et du coup, potentiellement, le laisser charger pour quelqu'un d'autre. Donc, il y avait une responsabilité qui arrivait comme ça. Est-ce que là, ça vous parle de charger un objet
Bah oui, je crois que c'est une notion qui revient assez souvent dans les ateliers. La question de charger ou décharger, je crois aussi. Peut-être décharger de ses émotions et du coup, en chargeant peut-être la terre et l'objet. Et nous, on ne peut pas trop jouer sur ça, je crois. Je crois que c'est très personnel, mais en tout cas, on le dit aussi que c'est OK de soit charger, soit pas charger en son objet. Et que ça peut aussi disparaître. Et que ça pourrait aussi être un objet qu'on a envie de, par exemple, de ne pas cuire et de laisser disparaître tout seul ou bien... En fait, il y a aussi tout ce rapport au temps qui est possible avec la céramique, en choisissant de cuire, pas cuire, de laisser dehors et de le laisser à son avenir un peu. Donc oui, ça parle forcément, cette question de charger. Mais oui, je crois qu'on, à part proposer et parler de cette temporalité, de toutes les possibilités qu'offre la céramique, c'est assez personnel d'avoir envie ou pas de charger son objet, peut-être.
Et puis sur la responsabilité aussi, à la fin de l'atelier, d'être dans la production et d'être responsable aussi de la création d'un objet, donc potentiellement d'un objet, d'un déchet en fait supplémentaire, d'une création d'objet qui deviendrait déchet, d'être dans la surproduction. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi conscience ou voilà, dans vos pratiques, parce que vous créez des objets supplémentaires?
Bah complètement, et moi je crois que c'est même une des pistes qui m'a amenée à vraiment vouloir penser la céramique funéraire. C'est du coup qu'est-ce qu'on a envie de laisser, même individuellement. Et ouais, cette responsabilité de cuire, de rajouter des objets, de fabriquer des objets qui vont dépasser notre propre temps d'existence. Et je trouve que c'était du coup une bonne raison pour fabriquer les objets funéraires, sur la question du souvenir et de la mémoire, de du coup s'en emparer. Et de ouais, de pas hésiter à justement charger symboliquement tout ça. Enfin, moi je serais plutôt du genre à pas hésiter à charger si c'est un besoin, quoi. De se dire cet objet-là va avoir une valeur hyper importante et ça se trouve, il sera retrouvé dans 1000 ans et personne ne comprendra l'histoire, mais ce sera fascinant.
Justement, il y a quand même toute une symbolique. Je reviens sur le façonnage de la terre et puis le fait de le cuire. Alors, on a ce choix de ne pas le cuire et justement, il redisparaît. Et qu'est-ce que ça vient aussi, qu'est-ce que ça apporte de travailler la terre mentalement et physiquement aussi, ou dans les sens?
Enfin, c'est quelque chose qu'on dit aussi maintenant au début des ateliers, c'est que les gens viennent là aussi pour se faire du bien, parce que avoir les mains dans la terre et modeler, ça amène aussi à un geste et à laisser aller un peu son esprit pendant que les mains sont occupées. Et en tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué très juste personnellement sur moi, que des moments d'atelier, des fois, je pouvais clairement partir assez loin dans certaines réflexions, juste en façonnant, en fabriquant, même des gestes très répétitifs. Et je crois que c'est aussi pour ça que cette idée-là est venue à un moment donné, de proposer des ateliers d'accompagnement, c'est pour faire profiter aussi d'autres personnes de ces temps d'atelier qui font du bien.
Est-ce que là, vous avez des projets, cette résidence-là de 3 mois, est-ce qu'elle a amené justement des choses, des envies, des projets à développer ?
Je crois qu'on a envie surtout de continuer ce projet, de continuer à le développer, à l'affiner, continuer à proposer des ateliers, trouver d'autres endroits que ce lieu de résidence qu'on a eu, qui est l'Hôtel Pasteur, trouver d'autres endroits pour continuer à penser tout ce projet. Donc à la fois par des ateliers collectifs, à la fois par des ateliers plus individuels, et puis même d'autres formes d'ateliers aussi, parce que on pourrait aussi travailler sur plein d'autres thématiques, des thématiques bien plus précises aussi ou spécifiques sur du coup, peu importe, hein, y a plein de possibilités, mais je crois qu'on a envie de continuer dans ce projet.
Et est-ce que les objets que vous allez créer, vous allez les vendre, est-ce que c'est un de vos projets ou pas du tout?
Ah, pour les productions un peu personnelles, enfin ce que nous on fabrique en dehors des ateliers?
Oui, exactement.
Oui, sûrement en partie. Je pense que ça fait partie. C'est une petite partie de notre projet aussi de pouvoir diffuser nos productions personnelles qui sont plutôt artistiques quand même, plutôt des pièces uniques en céramique. Et oui, je pense, mais ça c'est assez minime. Enfin, j'ai l'impression que ça vient à d'autres endroits peut-être que les ateliers. Ça serait chouette. Je crois qu'on a un peu des envies de magasins funéraires qui regorgent de trésors, un peu comme une... Enfin, peut-être changer aussi cette image de l'acquisition d'objets céramiques funéraires. Enfin, en fait, quand on pense à un magasin funéraire noué, on voit plutôt une caverne d'Ali Baba avec plein de petits objets, plein de petits meubles à mettre chez soi. Enfin, je sais pas, moi, je vois un peu des trucs comme ça, un peu plus onirique et un peu plus poétique, peut-être.
Alors, qu'est-ce qui ferait que ce serait des objets funéraires, justement? Si on les garde chez soi, que ça ressemble à des objets, des meubles, qu'est-ce qui fait que ce serait de la céramique funéraire?
Bah justement, je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est de travailler sur cette frontière, comme on disait tout à l'heure, et du coup de pouvoir ramener les objets funéraires chez soi, et que ça reste des objets funéraires, mais que du coup ils s'intègrent dans notre quotidien de vie, et qu'ils aient aussi des existences un peu différentes que celles du cimetière. D'être dans une maison, c'est un peu différent, j'ai l'impression. Mais en tout cas, je sens que ça, c'est possible de faire cohabiter des espaces de funéraires dans un espace domestique. Ça peut être des petits espaces d'intimité. Enfin, je vois ça tout à fait possible, envisageable.
Et ce qui les différencie aussi, c'est, je pense, l'intention qu'on y met.
Ouais.
Et des fois, on peut être la seule personne à connaître cette intention.
Exactement.
Et ça brouille un peu les pistes, mais c'est ça qui est intéressant.
Je vous ai demandé de choisir une musique. Est-ce que vous voulez la présenter, dire pourquoi ce choix? Elle est trop bien.
Ouais, non, ce choix, c'est une chanson, je sais pas, je la trouve tellement touchante. J'adore ce texte et la rythmique, le fait de aussi ces trois personnes qui chantent ensemble. Enfin, voilà, c'est juste parce que c'est trop beau.
Ouais.
Alors, on écoute Alice. Le titre, ça s'appelle Bâtiment, de l'album Alice Partout.
J'ai réalisé ce bâtiment pour toi. 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 J'ai tout fait 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 pour toi, j'ai tout fait pour toi. Ce bâtiment pour toi, j'ai réalisé ce bâtiment pour toi. Mais l'amour, c'est trop bien pour toi. Mais l'amour, c'est trop beau pour toi. Mais l'amour, c'est trop bien pour toi. Mais l'amour, c'est trop beau pour toi.
C'était Alice et le titre Bâtiment à retrouver sur la plateforme Bandcamp.
J'ai une dernière question. Comment on vous contacte là pour les prochains ateliers?
On s'est fait une adresse mail.
Super.
il faut la donner.
Bah oui.
céramiquemortel@gmail.com.
Céramique au pluriel et mortel au pluriel.
Ouais.
@gmail.com.
Il y a un truc que je crois que j'aurais eu envie de dire pour ce podcast, c'est que dans ces ateliers on travaille du coup des questions funéraires, mais j'ai l'impression que on avait cette envie commune de traiter le funéraire comme quelque chose d'assez vaste et que on traite aussi pas que de la disparition des personnes, mais qu'en fait il y a la place aussi de réagir à la disparition d'une période de vie, la fin de quelque chose, le manque. En fait, c'est plus vaste que juste la mort des gens, quoi. Et que ça pouvait être la mort des événements, des lieux, des choses qu'on a aimées. Voilà. C'est aussi plus vaste que ça. En tout cas, je crois que c'est important pour nous que ça soit abordé comme ça et qu'on ne soit pas que dans le deuil des personnes, mais que ce soit aussi la question de la mort un peu symbolique. Merci, Lucille.
Merci.
Merci, Charlotte. Merci, Mila. Je suis Lucille Milliard, la réalisatrice. Merci à Mathilde Cuchet pour l'illustration et merci à Florian Kuhn pour l'habillage sonore. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcast.
On termine en musique avec Prendre soin, un titre composé par Babix et interprété ici par Céline Régnard et Anne Mazot du collectif Chant Funérailles.
S'accrocher au mur blanc de la courette sous la mousse, tu sais, des fleurs dont on ne sait pas le nom. Nous prendrons soin, nous prendrons soin de la maison. Nous passerons du temps, nous passerons le temps qui pousse comme une liane, qui pousse, qui pousse, qui pousse tout le temps, comme la mousse de la courette au mur tout blanc. Nous prendrons soin, nous prendrons soin de la maison. Connaissent pas nos noms. Nous prendrons soin, nous prendrons soin, nous prendrons soin de la maison.